La tempête a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle.
Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action?
Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine.
Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête.
Et en fait, on passe complètement à côté de ce que ça fait au monde d'optimiser. L'enjeu, ça va être de reconstruire.
La violence, c'est le mépris envers les populations.
Et c'est le bouffon du pouvoir, quoi.
Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance.
On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois.
Oui, ça va passer aussi par du sabotage.
Là, c'est une grue qui s'est effondrée.
Je sentais qu'il se passait quelque chose.
Le 8 septembre 2023, la maison où nous habitons depuis 4 ans, la Kunda, est jugée pour occupation sans droit ni titre. Deux mois plus tard, nous avons voulu constituer des archives autour de nos espaces de vie, de l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvions à la veille du délibéré du procès, et plus généralement, du contexte politique global et des luttes en cours. La situation légale, juridique et surtout répressive au début de la Kunda n'était pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. Partout en France, une série d'affaires médiatiques posant les proprios en victimes dépossédées de leur toit par de vilains squatteurs a favorisé le passage de plusieurs lois qui nous criminalisent toujours plus. On a vu ces dernières années des expulsions hyper violentes, des proprios et flics en roue libre et main dans la main. Merci aux différents collectifs de squatteurs et squatteuses qui ont participé à l'élaboration de ce podcast et permis d'y voir plus clair sur les perspectives de squat dans les temps à venir.
On est à la Kunda. On se retrouve pour une petite émission avec différentes personnes et collectifs. Du coup, dans cette émission, on va parler de la question du logement et plus particulièrement de la lutte des squats. Mais je voulais d'abord faire un petit panorama des lois qui, en ce moment, passent et qui ont un impact direct sur nos conditions de vie en tant que squatteuses et personnes sans papier. Pour commencer, on a la nouvelle loi Darmanin qui est en train de passer en ce moment, qui s'attaque sévèrement à la liberté de circulation, avec le ministère de l'Intérieur qui la décrit comme la plus ferme avec les moyens les plus durs de ces 30 dernières années. Il y a la nouvelle loi Casbarian qui est passée cet été, qui s'attaque à la fois aux squats, aux occupants, d'usines, de terres agricoles, etc., et ainsi qu'aux locataires précaires. Cette loi est censée quand même dans un contexte où on a 3 millions de logements vides en France et des ménages multipropriétaires qui possèdent 2/3 des logements détenus par des particuliers, avec toujours plus de personnes à la rue et de mal logés. C'est dans ce contexte-là qu'il y a de plus en plus de luttes et de personnes qui essayent de s'en sortir et qu'on va essayer aujourd'hui de voir un peu qui ça touche et quelles sont les luttes actuelles, quoi, en Ile-de-France notamment. Peut-être qu'on peut commencer par la présentation du festival.
Salut, je suis habitante de la Kunda. Et du coup, on voulait faire un festival sur 2 jours en soutien à la mutuelle de la maison, à la caisse anti-REP, donc pour payer les frais d'avocat, et à la caisse collective, donc pour payer les dépenses des 3 bâtiments. Et c'est un festival dans lequel va y avoir des ateliers de sport de combat, des spectacles, des concerts sur 2 jours, des cantines, et qui visait à ouvrir le lieu et à le faire découvrir à d'autres personnes.
Ok, et peut-être qu'on peut avoir une petite présentation de la Kunda.
Alors la Kunda, c'est un squat qui a été ouvert en mars 2020 et où habitent aujourd'hui plus d'une cinquantaine de personnes. Elle est née de l'initiative de plusieurs collectifs après différentes expulsions ou décisions d'expulsion. On avait déjà trouvé le bâtiment, c'était un ancien foyer de l'aide sociale à l'enfance de Vitry-sur-Seine qui appartient au Val-de-Marne. Très vite après l'ouverture, il y a le premier confinement qui a été annoncé et comme on était bloqué dans le BAT, ça nous a permis de penser tous les espaces, d'organiser politiquement notre maison. À part quelques groupes dans la maison, ce n'est pas un squat qui est construit sur des bases affinitaires, donc on se retrouve souvent en désaccord ou avec des besoins et des envies complètement différents sur presque tous les sujets. En vrai, émotionnellement, c'est hyper intense depuis les premiers jours et la répartition des charges est très inégale. Un des buts principaux de la Kunda depuis les débuts, ça a toujours été de créer des liens de solidarité entre nous, habitantes, et de tenter de l'étendre au quartier. Il y a eu des périodes où on avait la sensation que le lieu tournait, que collectivement ça se passait bien et qu'on arrivait à créer des liens autour de la Kunda. Et il y a d'autres moments où politiquement et entre nous, c'était super galère. En 3 ans, il y a eu beaucoup de choses ici. Il y a une récup par semaine. On fait un marché solidaire qui a lieu tous les dimanches pour les voisins et voisines. Il y a des cours de sport, de combat proposés par le Seasoned en mixité choisie transfem et par le boxon plusieurs fois par semaine. On a créé la mutuelle de la Kunda qui permet à chaque personne de donner ou de prendre de l'argent chaque mois selon ses moyens et ses besoins pour constituer un système de solidarité et d'entraide matérielle qui participe à l'autonomie de chacune de ses membres. En réalité, les sommes qu'on arrive à réunir sont assez limitées, mais c'est toujours ça. Il y a un hack lab, un atelier de couture, un atelier de sérigraphie, un atelier tatou. Il y a eu des grosses soirées, des cantines, des ciné-clubs, un gros festival d'autodéfense, un festival inter-squat, des événements de soutien à plein de luttes et collectifs. On a mis en place des sleepings pour les personnes de passage. La Kunda a aussi servi à des collectifs extérieurs de lieux de réunion et d'organisation politique. Et il y a juste un petit dernier truc. Dimanche dernier, c'était les 2 ans de la mort d'un copain. Et j'aimerais dédicacer ce moment à Fofana, qui sera pour toujours dans nos cœurs. Et grosse pensée à Tito, qui aimerait être avec nous et crève la tôle.
Dans l'introduction, je parlais des différentes lois, etc., loi Casbarian, immigration, etc. Dans quel contexte s'inscrit la Kunda ? Votre procès, il s'est passé en fait avec les anciennes lois qu'il y avait avant et du coup pas avec la nouvelle loi Casbarian, quoi.
On a été assigné, enfin on a eu la date du procès avant que la loi soit mise en application. Du coup, normalement, ça sera pas la nouvelle loi qui va être appliquée. Mais bon, en vrai, on sait jamais. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul sur cette loi, donc. Normalement, c'est la loi d'avant qui sera appliquée et qui fera que, notamment, on peut potentiellement avoir jusqu'à 3 ans de délai, alors que les squats qui vont être assignés avec la nouvelle loi, ils auront maximum 1 an de délai maintenant.
J'avais fait une petite introduction sur les différentes lois parce que, évidemment, en fait, la loi Casbarian comme la loi Darmanin sont intrinsèquement liées et elles ont un impact concret et brutal sur nos vies.
Et là, on change de ville pour se rendre à rue Barra, à Montreuil, où plusieurs squats ont ouvert. Ils ont été expulsés le 24 octobre 2023. Ils étaient intimement liés à la lutte des résidents du foyer Barra, juste à côté, contre la restructuration du foyer, en résidence sociale individualisée en 2018. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
J'ai fait partie de 8, 10, 6 rue Barra. On était au nombre de 60 personnes. Il y avait des femmes, des handicapés, des enfants qui étaient dedans. À chaque moment, la police vient chez nous pour nous faire intimider à tout moment. Parce qu'à chaque reprise, il vient avant nouvelle loi, il vient chaque fois pour nous faire des pressions, quoi, coups de pression, pour que, comme on est nombreux, il vient à tout moment, mois prochain, vous allez sortir. Parce que quand tu fais comme ça, là, c'est pour disperser les gens. Une semaine après, ils étaient venus pour nous dire comme ça, le 24, vous allez sortir. Nous-mêmes, on ne croit même pas. Parce qu'on avait duré, il y avait des foyers Barra qui étaient à côté. Et quand foyer Barra était parti en 2018, nous, on a installé les cantines des foyers Barra qui se trouvent chez nous aussi. Quand il nous a expulsé, les cantines Barra aussi, c'est comme 60 personnes qui se trouvent dehors maintenant, nulle part, ils ne savent pas là où ils vont aller. Parce qu'on est parti voir à la mairie aussi nous a mené voir assistance sociale aussi. On est parti là-bas aussi et il nous a mené aussi à la mairie aussi. C'est comme un tourbillon, quoi. C'est comme ils nous jouaient de cache-cache, quoi. C'est pas humain quand même, quoi. Parce que manière dont je vois, il y a trop de racistes dans cette, tu vois, ouais. Parce qu'il y a trop de racistes. Parce que quand on a expulsé aussi, on a essayé aussi d'ouvrir d'autres bâtiments aussi. Avant crève hivernale, on a essayé de maintenir presque 2 semaines dedans. Mais la mairie, le jour des crèves hivernales, 2 jours après, ils étaient venus nous expulser aussi là-bas. Tu as vu? 2 de nous a fait, l'autre là est parti en garde à vie. Tu vois? Quand ils étaient partis en garde à vie, ils ont donné des QTF. Ça veut dire que les sans-papiers maintenant là, c'est mal barré maintenant. Tu as vu? Pour faire des squats maintenant là, parce que c'est trop raciste maintenant. Parce que sans-papiers, ils te donnent 4 QTF dedans, c'est comme tu es mal barré.
La rue Barra, elle se trouve à Montreuil. C'est oui. Quand même une lutte historique à Montreuil parce oui. que, enfin, et notamment on l'a vu avec la mairie de Montreuil qui a fait toute une communication mm-hmm. avec le renouvellement du foyer Barra.
Oui.
Ce foyer, il a été détruit puis reconstruit.
Oui.
Et en même temps, ça a mis des gens en fait sur le carreau parce qu'il n'y avait pas assez de place dans ce nouveau foyer. Oui. Ils vous avaient fait des propositions de relogement, mais où ça ?
Il nous a fait proposition de relogement vers Lyon.
À Lyon ?
Oui, à Lyon. Parce que pourquoi ? Parce qu'il sait que nous, on est sans papier. On travaille ici, on vit ici, on fait tout ici. Mm. Parce que si tu dis, la personne qui travaille ici, là, pour aller à Lyon, tu fais quoi ? Tu veux faire quoi maintenant ? Et pourtant, c'est nous qui faisons des bâtiments, c'est nous qui faisons des travaux qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire ça. C'est pour cela que nous, on a dit non, on ne peut pas aller là-bas parce que nous, notre vie, ça se trouve ici, là. Parce que si tu dis d'aller à Lyon, on va faire Lyon pour venir ici, là. Il dit comme ça, ok, monsieur, si tu ne veux pas aller à Lyon, on n'a pas d'autre solution. C'est ça qu'ils ont proposé. Les handicapés aussi, si tu es garçon, tu vas à Lyon. Les femmes, ils ont dit hébergement d'urgence de une semaine. Il y avait des femmes aussi qui sont avec leur mari, ils ont donné 2 jours. Ça, c'est fou, ça. C'est pas humain. C'est trop raciste. Voilà, c'est ça qui se passe. Mais jusqu'à présent, les 60 personnes-là qui se trouvent toujours dehors, avec ce froid-là, on ne sait même pas là où on va, on ne sait même pas là où on va vivre. Parce que c'est comme on n'est pas des humains, c'est comme les chiens sont mieux que nous-mêmes. Tu vois, parce qu'on a quitté chez nous, on est venu ici pour. Parce que chacun de nous, on a vu des vies dures. On a pensé que la France, c'est un pays de paradis. Nous, on pense que c'est un pays de paradis, mais on est venu dedans. C'est comme. C'est l'enfer qui a commencé. Moi-même, mes amis, quand on est venu ensemble, il y a 2 de mes amis, ils étaient restés dans la mer. Tu as vu? Devant moi-même. Mais quand on est sauvé, nous, on a pensé qu'on va faire paradis. Mais arrivé là, il y a d'autres racistes qui nous attendent aussi. Avec, je ne comprends même pas, tu vois. Mais maintenant, là, on est dehors. On ne sait même pas là où on va. Hein? Je ne sais même plus. C'est ça. La France, c'est comme ça. La France, c'est la souffrance. Voilà.
Ce contexte-là, il s'inscrit dans l'approche des Jeux Olympiques 2024, où en fait, on a un gros lot de lois répressives, de lois racistes, de lois classistes qui viennent littéralement nettoyer la Seine-Saint-Denis, tout le 93 en général. Est-ce que vous avez des plans, là ? Enfin, genre, vous avez essayé 3 fois, non ?
Oui.
3 fois. La 3e fois, expulsé pareil ?
Oui. Même s'il fait froid ou pas, il s'en fout de ça, il te met dehors. C'est comme ça.
Même pendant la trêve hivernale ?
Oui.
Et ça, à cause de la nouvelle loi Casbarian ?
Oui.
À cela s'ajoute genre la loi immigration, mais en fait, genre, c'est un espèce de total qui fait qu'en fait, être sans papier, ne pas avoir de logement,
oui.
En plus, quand tu te retrouves à la rue, ça devient un trouble à l'ordre public. En fait, il n'y a même plus aucune place pour exister,
oui.
À Paris,
oui.
/ en Ile-de-France. Enfin voilà quoi, c'est ça le contexte.
Oui.
En fait, il faut être ensemble quoi.
Il faut donner main dans la main, ensemble, on va gagner ce combat. Il faut qu'on marche pour montrer notre mécontentement vis-à-vis de cette loi. Voilà, c'est ça que je vois.
Moi, je voulais juste rajouter que peut-être qu'on ne l'a pas assez dit au début, mais. Nous, à la Kunda, on est dans le 9-4, on est à Vitry-sur-Seine, et du coup, on a la chance, entre guillemets, de ne pas avoir les JO qui vont se passer ici. Et ça, en fait, ça se ressent directement dans le contexte répressif. Et ça fait que je pense que ça participe au fait que notre lieu tient aussi bien depuis aussi longtemps, et que c'est important de mettre en commun les ressources et les lieux, et que justement, de faire du lien entre les différents squats et entre les différentes personnes, ça permet de mettre en commun notamment des espaces de stockage, des sleeping, de faire de l'hébergement des copains qui se font expulser, de s'apporter du soutien, de faire des cantines de soutien pour les grévistes. Et du coup, que c'est d'autant plus important de faire du lien entre nous, donc même à l'échelle de l'Île-de-France, parce qu'en fonction des banlieues et des quartiers où tu habites, en fait, tu n'as pas du tout le même contexte répressif.
Au fait, j'ai oublié quelque chose, parce que quand on était expulsés, le Roseau était là parce que je saluais le Roseau toujours. Parce que les gens du Roseau, ils étaient meilleurs. Avec l'Aéri, c'est eux qui nous ont soutenus beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'ils étaient là. Parce que même si on se lève avec eux, on a fait tout avec eux. Vraiment, Merci, merci beaucoup pour eux. Vraiment, que Dieu vous bénisse.
Les roseaux, un squat dans le Bas-Montreuil. J'enchaîne vite fait, peut-être sur... est-ce que tu veux vite fait présenter Soupirail ? Je trouve que ça fait un bon lien sur l'idée de lier un peu différents lieux, notamment contre la loi Casbarian, parce qu'en fait, ça attaque à la fois les locataires et à la fois les squatteuses, mais aussi en fait toutes les luttes qui viennent occuper des espaces, notamment pendant les grèves où il y a des usines qui sont occupées ou des zones à défendre en campagne, etc. Est-ce que tu veux parler de ça ?
Donc Soupirail, c'est un collectif qui a été créé en septembre dernier, donc après la première application de la loi Casbarian auquel on a dû faire face, et qui est un collectif qui vise à s'organiser autour de deux axes de lutte principaux. D'un côté, visibiliser et vulgariser ce que c'est que la loi Casbarian, parce que c'est une loi qui est super compliquée, que nous-mêmes, en fait, on n'arrive pas à très bien comprendre comment elle va être mise en application, qu'elle ne concerne pas que les squatteurs et les squatteuses, mais aussi les locataires qui galèrent à se loger. Et du coup, on voulait vraiment essayer de visibiliser ce que ça va être et en parler. Et d'un autre côté, essayer de faire du lien entre justement les locataires qui galèrent, qui n'arrivent pas à se loger et à payer leur loyer, et les personnes qui squattent. Et donc mettre en commun les lieux, les ressources, en essayant de faire du lien et de créer des espèces de plateformes d'échange et de rencontres pour parler de la question du mal logement.
Justement, ce lien entre les locataires et les squatteurs, il est difficile à faire parce que c'est deux réalités différentes. Tu me parlais tout à l'heure de Barcelone. Est-ce que vite fait tu peux citer cet exemple là et aussi expliquer un peu le contexte de l'Île-de-France vis-à-vis de ce sujet là
En fait, on a remarqué que, enfin, ça fait des années qu'on se le dit, mais en France on galère à faire du lien avec les locataires qui sont eux aussi impactés par toutes les lois qui criminalisent la précarité face au logement. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était pas le cas partout. Et notamment à Barcelone, il y a des syndicats de quartier qui ont été créés il y a quelques années et qui visent à faire ce taf de lien avec les locataires précaires et notamment de s'organiser pour empêcher les expulsions et parfois pour aider les gens qui se font expulser à ouvrir des apparts et à squatter en fait. Et on s'est rendu compte que ça, en France, on n'arrivait pas trop à le faire alors qu'en fait, on aurait complètement intérêt à se rejoindre sur ces questions-là et à s'organiser ensemble pour empêcher les expulsions.
Et du coup, en France, le contexte politique vis-à-vis de la liaison entre les locataires et les squatteuses, je pense un peu aux DAL, où en fait, tu as des manifs, où tu as un peu des locataires qui viennent pour dire leur situation de précarité, etc. Mais en réalité, c'est quand même plutôt superficiel, en fait, cette liaison.
Oui, parce qu'en plus, tout est fait pour que, justement, les gens n'en parlent pas. Même au moment où la loi est passée, en fait, dans le discours du gouvernement, il n'y avait que les squatteurs qui étaient visés. Et il n'y avait rien qui était dit sur le fait que les locataires allaient prendre cher avec cette loi aussi. Parce qu'en fait, tout est fait pour que ce soit une question ultra individualisée, que les gens aient honte de ne pas réussir à payer leur loyer, alors que c'est des loyers, mais surtout en Île-de-France, en fait, c'est connu mondialement pour ça, c'est impossible de payer son loyer. Et du coup, tout est fait pour que ce soit vraiment une question qui soit de l'ordre du privé, pour empêcher les gens de s'organiser par rapport à ça. Et je pense un autre truc qui rend plus difficile la liaison avec les locataires qui galèrent, c'est que le gouvernement joue de ouf sur la vision du squatteur ou de la squatteuse qui vient voler sa maison au petit propriétaire qui rentre de vacances et qui arrive et qui ne peut plus ouvrir sa maison parce qu'on a changé sa serrure. Et du coup, ça rend d'autant plus difficile de faire du lien et de dire, bah, en fait, on peut s'organiser ensemble parce qu'on a des luttes communes avec des personnes qui ne s'identifient pas du tout au milieu squat, qui est présenté d'une manière complètement faussée.
Donc, comme dit dans l'introduction de cette émission, la loi Casbarian, elle est passée cet été. Et la première application, il s'avère qu'elle se soit appliquée à Montreuil, notamment sur le squat des Roseaux. Est-ce que tu veux te présenter, toi et peut-être le squat aussi, là où tu habites ?
Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Diabo El Sniper. Je suis un habitant de Roseaux. Le réseau, il contribue dans plusieurs choses. Il s'agit de questions d'humanité et moi, je suis parmi ces personnes-là. Et le réseau qui m'a permis d'être au chaud et d'être hébergé et de pouvoir équiper mes équipations. Du coup, je sens que ce sont des squats qui sont vraiment importants dans la société quotidienne. Et quand je vois certaines lois qui sont votées par l'État français, et ça me tient vraiment en cœur que ce sont des lois qui vont déstabiliser les squats et les squatteurs. Et je trouve que ce n'est pas humain, ces gens de loi, parce que ces lois sont votées par nous les êtres humains. Ces lois, ça peut être suspendu quand nous, on s'élève, on fait un soutien, une solidarité ensemble pour pouvoir combattre ces lois-là, parce que nous, on n'est pas d'accord. Et pourquoi? Parce que des personnes qui sont dehors, qui sont sans abri, le fur et à mesure, le jour en jour, ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait qu'augmenter, quoi. Et l'État français, ils sont là, ils voient ces gens de trucs-là, ils ne font rien pour ces jeunes personnes. Et moi, j'étais dans ces mêmes situations. Et si ce n'est pas les gens de réseau, j'allais être aussi dans ces mêmes situations jusqu'au maintenant. Mais grâce à les gens, les habitants de réseau, qui fait qu'aujourd'hui, je me sens mieux et j'arrive à faire ces jeunes choses, j'arrive à progresser, j'arrive à avoir la tête un peu haute un petit peu, j'arrive à avoir une place dans la société. Mais après, si c'était pas les gens de réseau, comment j'allais vivre à ce moment-là, que je n'avais pas, j'ai pas assez à avoir l'aide de l'État et rien du tout. Comment j'allais vivre?
C'est aussi un lieu qui est connu pour avoir été attaqué par son propriétaire avec une
Une pelleteuse.
Ouais, une pelleteuse.
Ouais.
Du coup, c'est faut se dire, en fait, à 7h, 8h du matin, un espèce de tracteur là, qui arrive dans la rue et qui vient détruire un peu le mur pour essayer d'expulser les gens, qui sont d'ailleurs à l'intérieur de cette maison-là.
Ouais.
Toi, tu étais là à ce moment
Moi, je n'étais pas là à ce moment, mais des proches, des gens qui m'ont hébergé, qui étaient là, qui sont témoins de cette truc-là qui s'est passé. C'était vraiment dramatique de la part de ce monsieur qui avait un état d'esprit pas humain, quoi.
Parce que du coup, le propriétaire, il arrive avec sa pelleteuse. Il faut se dire qu'en fait, les roseaux, de base, il y a un projet immobilier qui vise du coup à raser cette maison pour construire un immeuble avec un espèce de toit terrasse et une pizzeria, etc. Mmh. Exactement les projets qui sont acceptés dans le Bas-Montreuil pour embourgeoiser slash gentrifier un peu le quartier. En fait, les roseaux, dans un premier temps, la procédure, elle a commencé avec une loi d'Allo qui a été refusée dans un premier temps. Est-ce que tu peux me parler de ça Puis de la prochaine loi d'Allo qui a été remasterisée par la loi Casbarian, etc. Est-ce que...
Ouais, il y avait première loi, la loi d'Allo, qui a été impliquée contre nous. Et après, on a essayé de contester ces décisions. On a réussi à gagner. Et du coup, il a impliqué un deuxième loi avant la loi qui a été votée, la loi Casbarian. Et après, on a essayé de recontester ces lois-là auprès de la justice. Et après, on est arrivé à gagner, quoi, pour une deuxième fois encore. Et ce gars, il ne voulait pas nous voir être là, dans cet espace-là, et ça ne l'arrangeait même pas du tout, quoi. Alors que c'est un bâtiment qui était là pendant des années, c'était genre essayer de garder pour se faire beaucoup d'argent. Tout le monde sait qu'en France, quand il s'agit des questions d'hébergement, c'est pas de l'amusement, quoi. C'est quand même compliqué pour le système d'hébergement qui sont en place, quoi. Personne n'en parle et ça existe pendant des siècles et ça est là, personne n'en parle. C'est compliqué quand même. Ils ne trouvent pas de solution pour ces personnes qui sont vulnérables, mais ils trouvent toujours à les torturer de jour en jour. Les personnes qui sont là sans abri et les squatteurs, on va essayer de compter. Quand tu regardes en France ici à ce moment, dans les autres quartiers, le squat, il contribue dans beaucoup de la vie des personnes sans abri, quoi. Même des événements un peu artistiques, des événements un peu alphabétisation, des personnes qui sont là, qui veulent essayer de s'intégrer. Je vois qu'il y a plein de squats qui combattent pour ces personnes-là, qui leur montrent qu'ils ont une valeur. Mais l'État français, qu'est-ce qu'il fait pour ces personnes-là? Il est en train de les torturer, le faire à mesure. Tu vois qu'il y a des personnes qui sont fous, qui deviennent folles, le faire à mesure. C'est à cause de ces situations-là. Ils ne veulent pas les aider. Ils font semblant devant la télé, etc. Alors qu'en pleine ville, il y a la réalité qui se trouve sur le sol français. Tu essaies de dire, ah, les Africains, on les aide, etc. Il y a des Français même qui sont en galère de ouf, qui sont là. Il n'y a aucune solution pour ces personnes-là, ni même des personnes qui viennent d'arriver. Et en vrai, bah, moi, je trouve que c'est horrible de voir ces genre de choses qui sont en train de se passer au niveau de contre les squatters et des gens qui sont là, qui ne peuvent même pas payer un loyer. La loi qui sont en train de passer là et les paroles qu'ils sont en train de dire en disant à les squatters, c'est qu'ils squattent les bâtiments. Mais ils ont raison de squatter. S'il n'y a pas de propositions fiables, mais ils ont raison de squatter. Parce que le pays, d'abord, le politique qui est en place, c'est un politique malmené qui sont là en train de parler de la grande gueule alors qu'il n'y a pas de la réalité. C'est que de la mensonge. Tout ce qui est promis, ça ne s'applique pas. C'est de protéger que les bourgeois, mais les gens qui sont faibles, ça est là pour les torturer, le faire à mesure, le jour en jour. C'est quelle politique est en place? C'est de déstabiliser la France. T'as vu? Dans les trous de métro, les êtres humains, ils sont couchés là-bas. Des vieillards comme des personnes qui sont jeunes. Après, quand on dit ça, bah, des fois, il y a des gens, ils ne peuvent pas être d'accord. Parce que, pourquoi ils ne seront pas d'accord? Parce que Macron, il fait les affaires. Il est là pour gérer et les biens et les personnes qui sont faibles. Ils trouvent ces personnes-là que c'est des fainéants, ils ne veulent pas travailler. La plupart des mots qu'ils disent, ils disent non, les squatters, c'est des fainéants, etc. Et il y a beaucoup de boulot sur le marché, ils peuvent trouver du travail, pourquoi ils refusent de travailler? C'est une parole politique. C'est une parole politique qu'ils sont en train de dire, alors que la réalité, ce n'est pas ça. C'est des personnes qui sont courageuses. Pour ouvrir un bâtiment, on ne se lève pas le jour au lendemain aller ouvrir un bâtiment. C'est des efforts qui sont fournis. T'as vu, il y a beaucoup de travail à faire. Donc voilà.
Du coup, dans ce contexte-là, de merde, comme tu dis, est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir? Du collectif, de l'espoir, des perspectives, je sais pas. En fait, rien que l'existence des roseaux, et en sorte une sorte d'espoir.
Ouais. Mais tu vois, quand on dit la France, égalité, liberté, fraternité, tout ça là c'est beau à dire, mais les squatters, on est en train de prendre notre liberté, et puis aussi fraternité, égalité aussi, tu vois pas? C'est comme la France est devenue comme un milieu de jungle quoi. Le plus fort va manger les faibles. C'est comme ça que ça se passe. Parce que maintenant, là, le propriétaire de maison, et ils sont le plus fort. Ils ont voté la loi. Plus fort mange les plus faibles. Mais maintenant, là, s'ils mangent, les gens vont faire comment? Ils se retrouvent dehors. Il n'y a plus d'égalité. Ils doivent revoir ces trucs-là. Égalité, fraternité. Même moi-même, comme ça, quand j'étais en Afrique, là, j'ai rêvé à tout moment d'être en France ici. Mais maintenant, là, quand je suis venu ici, là, j'étais dégoûté, quoi. Mais regarde maintenant, là, je suis dehors. Je ne sais pas là où je vis. Mais je vais faire comment maintenant? Tu vois, tous nos gens qui sont là comme ça, là, ces 60 personnes-là, ils se trouvent dehors, partout. D'autres se trouvent porte des pantins, d'autres se trouvent de trous de métro, parce qu'on sait, parce qu'ils ont fait des systèmes pour qu'on puisse se disperser. Quand tu vois des sans-papiers, ils se réunissent là comme ça. Quand ils disent, oh, il y a ça comme ça, tu vas voir, tout le monde va essayer de disperser. C'est comme il nous a ravi notre liberté. Tu as vu, non? La fraternité, il nous a tout ravi ça là. Tu as vu? La France se devient, je ne sais pas ce que je veux dire, la France est devenue, excuse-moi du terme, la France est devenue la merde maintenant.
Quoi, tu voulais rebondir?
Ouais, moi je me demandais c'est quoi les trucs qui me donnent de l'espoir là récemment. Et en vrai, plutôt j'ai l'impression d'être super pessimiste. Mais les moments où j'ai un peu d'espoir, c'est quand je trouve que, en fait, on se rend compte au moment des ouvertures, quand on appelle à des réunions publiques, quand on visibilise un peu ces questions-là, on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés par ce qui est en train de se passer, même si tout est fait pour que qu'on ait l'impression que c'est des combats complètement séparés, que ce soit les questions d'immigration, que ce soit les questions de squat, toutes les attaques contre les gens au RSA. En fait, on fait comme si tout ça, c'était pas lié, mais enfin, je suis d'accord, c'est pas un slogan. En fait, tout ça, ça fait vraiment partie d'un système qui fait en sorte de précariser le plus possible les gens qui sont déjà le plus précaires et de criminaliser toute forme de lutte. Et quand on voit qu'en fait, il y a des gens auxquels on ne s'attend pas du tout, qui viennent à des assemblées ou qui soutiennent les ouvertures, que ce soit des voisins ou des voisines, et qui disent qu'ils sont avec nous, qui participent aux récup, qui participent au marché solidaire et qui sont intéressés par ces mouvements-là, en vrai, ça donne un peu d'espoir. C'est pas grand-chose, mais en fait, il faut vraiment se dire, il faut sortir de la sensation qu'on est tout seul là-dedans et faire un gros travail de lien entre beaucoup de personnes qui sont concernées par les mêmes choses, finalement.
Je voulais conclure par pour essayer de faire une petite transition, parce que la Baudrière, elle a été hébergée, enfin elle est en ce moment hébergée par les Roseaux. La Baudrière, c'était un squat anarcha-féministe transpédégouine qui a été expulsé le 22 août cet été, et on a tenté de se défendre et on a résisté pendant 4 heures à l'expulsion des flics, parce qu'on voulait pas partir avec simplement un truc pour nous dire de partir. Je sais plus c'est quoi, mais c'est quoi ? C'est un avis d'expulsion ? Ouais, voilà. Du coup, on était 26 à l'intérieur. On a barricadé pendant plusieurs mois. On a coulé du béton. On a barricadé les fenêtres. Et ça arrive, il arrive le 22 août où les flics, ils n'arrivent pas à rentrer, évidemment. Et du coup, c'était super chouette. Du coup, la brigade d'intervention a dû escalader les toits, nous tège avec une nacelle, avec un bras automatisé, des pompiers. Enfin bref, je n'ai pas trop compris ce que c'était. Il y a eu 44 gardes à vue, des soutiens et des personnes qui étaient à l'intérieur. Il y a plein de textes qui expliquent cette défense et pourquoi on a défendu la Baudrière, le récit de l'expulsion, etc., que vous pouvez trouver sur Paris Lutte Info ou notre blog labaudrièrenoblogs.org. Et je voulais conclure cette émission, si ça va à tout le monde, par un petit texte d'appel qu'on avait rédigé, parce qu'à la Baudrière, on organisait des festivals d'écologie politique. Et là, l'émission va être retranscrite sur un podcast d'écologie politique. Du coup, je me disais de slash théoriser, slash politiser un peu la question du squat. Et je vais lire du coup le texte du festival. Nous envisageons nos habitats comme écologiquement radicaux. Le squat, la ZAD, l'occupation et l'organisation collective s'opposent à la propriété privée, à l'appropriation des ressources, à la ville quadrillée et métropolisée, aux espaces marchands, face aux dynamiques urbaines d'embourgeoisement qui ségrèguent et servent de justification à la bétonisation des banlieues, nous dessinons d'autres perspectives, celles d'un monde plus vivable avec d'autres manières d'habiter. En considérant l'habitat comme politique, nous concevons également les habitantes comme une force revendicatrice, une puissance capable d'agir. Les ravages écologiques impactent de mille façons différentes les dimensions inséparablement naturelles, culturelles, sociales et économiques de nos vies. Ils recoupent les autres formes d'oppression, qu'elles soient néocoloniales et racistes, cis-hétéropatriarcales, validistes, classistes. Cela nous impose de considérer nos luttes écologistes comme plurielles, complexes et multiples. C'est pour cela qu'il nous paraît essentiel de parler des écologies. Nous voulons reprendre la ville, y nourrir nos pratiques d'entraide et de soins, nos liens avec des luttes sociales et internationalistes. Le soulèvement des villes a toute sa place aux côtés des soulèvements de la terre, et nous devons nous rendre collectivement attentifs à partager nos ressources et nos outils, à tenir compte de la pluralité de nos expériences et modes d'habiter un territoire. Les luttes contre le saccage des JO, Jeux Olympiques, en 2024, et la bétonisation sans fin des espaces périphériques, contre les lois Casbarian et Darmanin, qui ciblent les plus précaires d'entre nous, et notamment nos camarades sans papier, pour la santé et le soutien communautaire, sont des priorités pour l'écologie politique, et c'est ce que nous voulons porter en Ile-de-France.
Ce podcast a été enregistré en octobre 2023, quelques mois après l'application de la loi Casbarian et au début de la médiatisation de la loi immigration, dite loi Darmanin. Depuis, on a appris à la Kunda qu'un an de délai plus la trêve hivernale nous avait été accordée, ce qui nous laisse au moins jusqu'à avril 2025. Malheureusement, à l'issue de la trêve hivernale et à la veille des Jeux Olympiques, les expulsions se sont succédées partout ailleurs. Souvent abusives, elles marchent main dans la main avec les politiques racistes d'enfermement et de répression des copains sans papiers. Après une lutte acharnée et de nombreuses victoires sur un terrain juridique pourtant miné par la loi Casbarian, les habitants et habitantes des Roseaux se sont fait expulser. À la veille des élections législatives et de l'arrivée probable de l'extrême droite au pouvoir, il est d'autant plus urgent que partout, des espaces de vie, d'organisation et de solidarité s'ouvrent.
Et en guise de fin, on vous propose un petit freestyle de l'artiste de la Kunda qui s'appelle Khalifa. Yeah, yeah.
Abadami na follow me Ibeka Bori. Le balon ben se koro a foma John Terry. Kuma balu ben kono ina foko jeli. Kuma balu ben kono ina foko jeli. Tu babu korte bembolo fenga na mate. Tu babu korte bembolo mon calibre. Neni ala tembe na do kaya kunte. Anute uya fofe konya na mate. Anute uya fola fe monya na mate. Ni kampunya ne bibunya ke. Neko Kenya belle et sois gueninke. Naturellement, pas besoin de forcer. Trop des alou, oh la tante mbolo. Ni kilo nyembe, ni jokike. Mais ça wambe yele mente yele mojula. Mais ça wambe yele mente yele mojula. Dominika dinye mente gbabe domu. Iyere koro si ganto iyere la. Adama kono kobe telon ke. Iyere koro si ganto iyere la. La Guinée rap, Gine. Tu ne peux pas contester. Betty Seka a joué. Ne la Champions League. Betty Seka ne la Ligue zoué. 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 Au Blacana, mais nous pas fait quand qu'elle est. Franca Benambe ou Djoufara. Nehina Lambe ou Tafara. Anoube Koba Kela aïe. Oloube Nyon Douyala aïe. Anoube Yareta Nginina. Oloube Koko Yala aïe. Aïe aïe aïe. Au Blacana, mais nous pas fait quand qu'elle est. Franca Benambe ou Djoufara. Nehina Lambe ou Tafara. Anoube Koba Kela aïe. Oloube Nyon Douyala aïe. Anoube Yareta Nginina. Oloube Koko Yala aïe. Bara mogosi yamane bila bush bela, menu tumba fokone tise arapela. Bara mogosi yamane bila bush bela, mani karapla me anyana male. Kome kumala toro konani yerela, ne malan yerela mbela chonela. Dunya nikono baby kune kadala, bekalon yereta le kafisa. Même s'ils font pitié, mena obe joki. Otene la RFS et sont mes ennemis. Je me sens fâché comme Vladimir Poutine. Je me sens fâché, fonyo au rafale. Teritena, je n'ai que des frérots. Ne tunya fola ti di kanane fo. Betty se canela, Betty se canela. Hey, hey. Betty se canela, Ligue zoué. 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 Blacana, mais nous pas fait quand qu'elle est. Franca Benambe ou Djoufara. Nehina Lambe ou Tafara. Anoube Koba Kela aïe. Oloube Nyon Douyala aïe. Anoube Yareta Nginina. Oloube Koko Yala aïe. Aïe aïe aïe. Blacana, mais nous pas fait quand qu'elle est. Franca Benambe ou Djoufara. Nehina Lambe ou Tafara. Anoube Koba Kela aïe. Oloube Nyon Douyala aïe. Aïe aïe aïe.